Si vous saviez ce qu'on se dit avant que l'enregistrement commence, aïe, 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 ça vaut de l'or. Oh parce que j'ai des collègues en or. Salut Nicolas.
Salut.
Salut Jeff. Qu'est-ce que tu fais comme recherche, là?
Oh, parce qu'on parlait de savoir si un ananas est mûr à l'épicerie. Donc là, j'ai googlé « Smelling pineapple myth or no ». Mais le AI Overview n'a vraiment pas compris la question. Et okay. C'est quand même vulgaire. Je vais pas vous dévoiler ce que ça me disait. Mais
c'est ça, parce que certains disent qu'en soulevant un ananas à l'épicerie, en sentant la partie du bas, on sait si l'ananas est bon, est mûr. Est à point.
Non. C'est ça. T'as juste regardé la peau, puis si c'est jaunâtre, ça veut dire qu'il est mûr.
Débattez dans les commentaires.
Débattez dans les commentaires, on veut vous entendre là-dessus, comme sur un tas de choses. Comment ça va, Jeff?
Ça va bien, toi.
Jeff qui m'apprenait, avant qu'on entre en onde, ça nous a fait bien rire, qu'il existe des garderies pour adultes.
Mais ça fait un bout,
mais
ça.
Mais je savais pas
c'est
ça.
C'est la grosse vague hipster des années 2010.
Pour
là, ouais, à
c'est
Brooklyn.
C'est peut-être plus temps, c'est-tu encore
je
tendance?
Je sais pas, écoute, je peux faire de recherche approfondie là-dessus, mais il y avait une certaine époque où il y avait des garderies pour adultes. Allez, là, tu passes la journée, il y a des activités, il y a des livres à colorier, tu fais une petite sieste en après-midi, tu bois des gobelets de lait, genre. Le colonel Louis-Charles m'a lancé un regard perçant quand j'ai décrit ça.
Mais pourquoi pas, tu sais?
Pourquoi pas?
C'est simple, I guess.
Tu peux faire du camping aussi.
Ben ouais.
Là. Ouais.
Alors, on reprend l'enregistrement. Je dis on reprend parce que on vient de se lancer dans une... En tout cas, une petite dérive qu'on ne pourra pas, malheureusement, mettre en ligne. Mais bon, on poursuit. On en était où, là? On parlait de fruits.
Garderie,
c'est ça. Nicolas qui est en pleine forme ce matin, il a bien dormi, il faut s'en méfier quand ça arrive. Et on goûte à cette médecine aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de titiller l'algorithme, les pouces en l'air, on aime ça, vous le faites, vous êtes nombreux à le faire. Et on en est tout à fait ravis. Un petit appel d'intérêt public avant de commencer aussi. On a lancé cet appel la semaine dernière dans notre infolettre. Je vais le renouveler. On a commencé à recevoir des suggestions et je suis très heureux de ça. Vous savez qu'à l'émission des crypteurs, on a plusieurs segments qui arrive en fin d'émission, qui s'appelle, par exemple, « Faites bien vos recherches », « Derrière la conspiration », « FAQ » ou « Sous la loupe », des segments pour lesquels on a tout plein d'idées, mais pas suffisamment, parce qu'on n'est pas doté de super cerveaux comme les vôtres. Alors, faites-nous part de vos suggestions. Faites bien vos recherches, des trucs et astuces pour naviguer sur le web en toute sécurité, efficacement. Derrière la conspiration, ben, on s'intéresse aux grandes conspirations qui ont marqué l'histoire.
Les vraies conspirations.
Les vraies aussi, parce que ça existe, des vrais complots.
Des vrais complots,
ouais. Oui, tout à fait. FAQ, ben, tout aime confondu. On répond en rafale à vos questions. Et sous la loupe, les mythes et les croyances à saveur scientifique. Alors, faites-nous part de tout ça, de vos idées, de vos flashs, comme on dit, sans recourir à l'IA, s'il vous plaît. Et vous pouvez nous envoyer ça par courriel décrypteur à commercial radiocanada.ca. Ben voilà, un petit retour sur les commentaires de la semaine dernière. Nicolas, c'est pas de ma faute, OK? C'est toi qui as semé la graine, puis la discussion se poursuit, OK?
OK.
Macaroni chinois.
Ah, encore.
Encore?
Je pense que je vais devoir m'en faire. Je vais me faire une préparation de lunch bientôt.
Ben, il y en a un qui t'a pas entendu et qui nous a écrit « Grâce à vous, j'ai eu un souper de moins à penser la semaine dernière. Je crois que la dernière fois que j'ai mangé du macaroni chinois, je n'avais pas encore le droit de vote. Exactement à la hauteur de mes attentes. Parfait repas de milieu de semaine. Cheers, les gars. Cheers à vous. Bon appétit. »
Ben, merci d'avoir fait ça.
OK.
Ça me touche.
Une autre suggestion, un autre commentaire à saveur, si on veut, alimentaire, gastronomique, c'est selon. Une personne qui nous dit qu'il veut lancer un débat par le biais de notre balado pour ou contre le ketchup dans une poutine. Merci et bonne journée. Nicolas?
Qu'est-ce que tu veux?
Ouais, je suis libertarien avec la
libertarien
poutine.
Libertarien à poutine? Ouais. OK, parfait.
Personnellement, non.
Ben,
mais après ça, tu peux faire ce que tu veux.
Oh, ouais,
ben, bien sûr, mais bien sûr. Idem avec tout le reste. La macaroni chinoise, tu peux y ajouter tout ce que tu
veux. J'ai vu quelqu'un mettre de la mayonnaise sur sa poutine. Ça, c'est un peu intense. Là.
Oui.
Mais écoute, libertarianisme.
Libertarianisme. Tout comme la canette dans le café, nous dit une personne. Je rehausse la canette dans le café.
Les boys, ça fait longtemps. Ça.
Ben, ça fait longtemps. Elle dit, ou cette personne dit, je rehausse maintenant avec la cannelle mes cafés. Shout out Alexis pour le conseil. Ben, ça m'a fait plaisir.
Il y a un café traditionnel au Mexique qui est infusé à la cannelle. Qui est sucré. Très, très bon, honnêtement.
Une vieille tradition ancestrale. Aztèque, qui sait. OK.
Aussi... Le chocolat mexicain, c'est de la cannelle, fait que ça a de sens.
Voilà.
Une personne qui nous dit, chers amis, prenez pas de vacances. Prenez pas de vacances cet été, j'ai besoin des décrypteurs à l'année longue.
Ouais, mais c'est des questions logistiques. C'est même pas parce que on quitte nous personnellement, mais les gens qui travaillent sur l'émission sont affectés à d'autres endroits à Radio-Canada.
Ou ont des vacances.
Ou ont des vacances, donc.
Ben oui, exactement.
on vous revient en grande forme. Mais là, c'est pas fini, là. Il reste quelques semaines.
Mais l'infolettre prend pas congé non plus.
Non.
Abonnez-vous à l'infolettre.
Abonnez-vous à l'infolettre. Voilà qui est. C'est l'injonction du jour. Oui, il y aura deux autres épisodes à part celui-ci, mis en ligne sur YouTube les 13 et 20 juin prochains, 12 et 19 juin prochains pour ce qui est d'audio. Ça, c'est sûr et certain. Et puis après, effectivement, il se pourrait qu'on s'absente. Ben, on va s'absenter au balado, mais pas à l'infolettre. Et on va continuer à tourner tout l'été. On va continuer aussi à écrire des articles et à moissonner pas mal pour l'année qui s'en vient, la saison qui s'en vient, à compter du mois de septembre pour ce qui est du balado. On termine sur une note passive-agressive. Moi, je dis que c'est le Bouddha du coin de la table qui est passif-agressif. Il est mal poli. Il vous tourne toujours le dos. Bien bonjour depuis l'Allemagne.
Wow!
Depuis l'Allemagne?
Oui. Depuis l'Allemagne. Salut à l'Allemagne, salut à tout le monde qui nous écoute depuis l'Europe et notre Bouddha qui veille au grain. S'assure que tout se passe bien autour de cette table dans l'harmonie, la paix et l'allégresse. On aura pour vous un avant-goût de la stratégie nationale sur l'IA du Canada, une stratégie qui s'est fait attendre, comme on le sait. Il était temps que ça arrive. C'est pas formellement fait au moment où on enregistre le balado, mais on en a les grandes lignes. C'est une stratégie qui voit le jour alors que les coûts liés à l'IA font grincer des dents de plus en plus. Il y a de la grogne, il y a de l'inquiétude, tout à fait légitime. Anthropic, pendant ce temps-là, franchit un pas important vers son entrée en bourse et ça se bouscule au portillon, comme on le sait, les grands joueurs de cette industrie qui veulent à tout prix franchir ce pas le plus rapidement possible. Leur survie financière en dépend largement. Piratage massif des comptes Instagram et Facebook, une faille majeure exploitée avec une facilité déconcertante. La faute à qui? À un assistant IA. Eh ben oui. Et puis à travers tout ça, pas le choix de vous parler du phénomène Backrooms. Ça, c'est un pur produit du web, tout droit sorti à l'origine de 4chan et qui se retrouve maintenant sur des écrans de cinéma un peu partout. C'est la ruée vers ce film que Nicolas a vu pas plus tard qu'hier. Et puis Hunter Biden, personnalité de la semaine sur X. Eh ben oui, il fait un retour, un retour en force qui fait rire pas mal de monde. Et c'est parti pour le 106e épisode du Balado des décrypteurs. Le Canada aura donc enfin une stratégie nationale sur l'intelligence artificielle 3 ans après l'entrée en scène de ChatGPT, de tous les bouleversements qui s'en sont suivis. Évidemment, nos collègues de la CBC ont mis la main sur une version préliminaire de cette stratégie-là, baptisée l'IA pour tous. Quel beau nom! L'objectif général de ce plan concocté par Ottawa et le ministre de l'intelligence artificielle de l'innovation Evan Solomon est d'accélérer l'adoption massive de l'IA à l'échelle nationale, former aussi les Canadiens à son utilisation. Il y a plusieurs bémols. Un premier qu'on souligne d'entrée de jeu, c'est que ce document-là reste assez vague sur la manière dont le gouvernement compte s'y prendre pour éviter les dérives déjà bien documentées liées à cette technologie de pointe. Alors, parlons-en de cette version préliminaire, parce qu'au moment où on se parle, je le rappelle, c'est pas officiel.
Si jamais des gros changements, on va mettre
exactement
une mise à jour.
Mais les grandes lignes, on les connaît.
C'est ça, parce que ça va être dévoilé pendant qu'on enregistre pas mal, mais comme tu le dis, Alexis, là, c'est vraiment le gouvernement qui veut investir massivement dans l'IA, veut s'assurer aussi que le Canada, les Canadiens investissent massivement dans l'IA. Il y a vraiment énormément de mesures qui sont annoncées. Peut-être une qui résumerait toute l'annonce, disons, c'est de s'assurer que l'adoption de l'IA dans les entreprises passe de 12% en ce moment à 50% en 2030, surtout dans les PME. Donc, on voit l'IA comme un moyen d'accélérer la productivité. On veut s'assurer aussi que les gens aient une littératie IA. On veut offrir des cours gratuits à tous les Canadiens. Pour ça, on va aussi injecter beaucoup d'argent. Il y a notamment un fonds en ce moment qui s'appelle le Fonds d'accès à une capacité de calcul pour l'IA, donc le Compute Access Fund. Okay. Donc, on veut que les entreprises puissent avoir accès à de l'IA. Si c'est de l'info nuagique canadien auquel ils ont accès, c'est 2/3 des coûts qui sont couverts par le gouvernement. Si c'est de l'info nuagique étranger, c'est la moitié. Donc, actuellement, c'est 300 millions de dollars, le budget de ce fonds-là. On veut investir plusieurs centaines de millions de plus dans ce fonds-là. On veut entraîner plus de 3000 profs dans des écoles avec des kits d'apprentissage d'IA, dit-on, dans leur classe pour que les élèves, les étudiants puissent apprendre à s'en servir. Il y a aussi tout un accent qui est mis sur la souveraineté numérique. Donc, on veut donner un coup de pouce aux centres de données, à la construction de centres de données. Il y a déjà des programmes pour ça, mais on veut injecter injecter encore plus de fonds là-dedans. Puis bon, il y a 6 gros piliers là-dedans, là, protéger les Canadiens, sauvegarder la démocratie, donner aux Canadiens les moyens d'agir. C'est vraiment juste comme on est all-in sur l'IA, on veut encourager l'adoption, puis on va mettre l'argent nécessaire pour se faire.
Il y a très peu de concret là-dedans, comme on veut que les entreprises adoptent l'IA, mais pas comment, à quel but précis. C'est juste, c'est comme si c'était un fait accompli que implanter l'IA dans ton entreprise, ça va apporter automatiquement des bienfaits pour les entreprises, qui restent à voir, puis on va vous en reparler un peu plus tôt. Mais disons que le timing en bon français de cette annonce-là est quand même très particulière, puis on va vous en parler un peu plus tard. Mais les réactions que j'ai vues à ça sur X, il y avait une vidéo qui a été mise en ligne par Evan Solomon où il expliquait les grandes lignes de son plan d'action en IA.
C'est le ministre de l'IA.
On l'a mentionné plus tôt, mais les réactions que je voyais, c'était les gens disaient « OK, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il dit. » C'est comme beaucoup de mots, mais je comprends pas c'est quoi la vision, c'est quoi concrètement, qu'est-ce que ça veut dire. Là, c'est sûr qu'il y a des mesures concrètes, comme Nicolas a dit, mais dans le message, c'est comme on veut que tout le monde ait accès à l'IA, on veut que tout le monde comprenne bien l'IA, mais en quoi est-ce que ça apporte des résultats concrets? Ça reste à définir.
Puis comment on va protéger les Canadiens contre les possibles dérives, là aussi, un manque de concret. Et tout ça après des mois et des mois et des mois d'attente de consultation. On se serait attendu à quelque chose de peut-être un peu plus concret.
C'est ça. On veut qu'il y ait une gouvernance responsable. Une des mesures qui dit on veut s'assurer que les entreprises utilisent des filigranes, mais tu sais, on ne dit pas vraiment comment. Donc, les fameux watermarks. Donc, c'est comme des concepts qui sont lancés. On dirait que les détails seront décidés peut-être plus tard. Les concepts d'un plan. Puis on dit qu'on veut investir aussi dans l'Institut canadien de la sécurité et de l'intelligence artificielle. Donc, ça aussi, c'est concret. On va injecter plus de fonds pour qu'il y ait plus de sécurité de l'IA. Mais je pense que c'est ça. Ce qu'il y a de concret là-dedans, c'est qu'on allonge des fonds, puis on verra bien qu'est-ce qui arrive. Parce que tu sais, même ce programme de propulser l'adoption de l'IA dans les entreprises, quand on va lire en quoi consiste ce programme-là, ça existe déjà maintenant. Il faut qu'on élabore un plan, qu'on le présente au fédéral, et par la suite, c'est approuvé, ils vont allouer les fonds. À quel point est-ce que les plans de ces entreprises-là sont concrets? À quel point est-ce que c'est nécessaire pour ces entreprises-là d'utiliser l'IA? C'est vraiment, on l'utilise à toutes les sauces parce que c'est une bonne affaire, mais il n'y a pas nécessairement de questionnement sur pourquoi.
Une partie du plan, par exemple, de former des professeurs dans les écoles pour apprendre aux élèves à utiliser l'IA. Alors qu'il y a un problème fondamental avec l'IA, on vous en a parlé, on a fait un sondage là-dessus à l'automne et... Les établissements scolaires ont de la misère à gérer le fait que leurs élèves utilisent l'IA. On ne sait pas comment détecter, par exemple, les devoirs qui sont faits avec l'intelligence artificielle. Il y a déjà un gros problème avec l'implantation de cette technologie-là qui vient de la part des élèves. Puis là, on veut en mettre encore plus dans les écoles, d'après ce que je comprends, en présupposant que c'est automatiquement une bonne chose. Donc, c'est vraiment la vision derrière ça, c'est que l'IA... C'est une bonne chose. Il y a très peu de discussions des écueils potentiels de ça, mis à part la souveraineté numérique puis la cybersécurité. Mais ouais, c'est très, très positiviste.
Il y a pas de mention des fameux centres de données et des désagréments que ça va éventuellement ou déjà sont en train de susciter, parce que ça fait partie de l'équation. Il n'y a pas d'IA souveraine, canadienne souveraine, sans... plus de centres de données implantés un peu partout, là.
Ben, comme on disait, ils veulent allonger des fonds pour ça, mais il ne semble pas y avoir, du moins dans ce plan préliminaire, quelque chose par rapport à l'acceptabilité sociale de ça. T'sais, on en a parlé la semaine dernière d'à quel point maintenant il y a un changement de cap dans l'opinion publique concernant les centres de données. On le voit statistiquement, l'opposition grandit et ça ne fait que commencer maintenant. Donc, aux États-Unis, on le disait, le gouvernement voit les opposants à ces centres de données-là carrément comme quasiment des terroristes domestiques, là. Puis au Canada, la résistance commence déjà à Vancouver, on en parlait, mais déjà maintenant, si on commence à en implanter un peu partout dans plusieurs communautés, parce que avoir une IA souveraine est important. Comment est-ce qu'on va s'assurer d'une acceptabilité sociale de ça? La question se pose certainement.
Oui, puis on avait déjà parlé à ce micro aussi de l'impression de moins en moins vague qu'on nous enfonce l'IA dans la gorge. Mais avec un plan comme ça, il est comme... C'est tellement positiviste, comme tu le dis, Jeff, et volontairement proactif que ça va peut-être alimenter davantage cette impression-là, qu'on n'y échappe pas, on n'a pas le choix. Le gouvernement, il va à fond de train avec cette technologie-là, avec un jargon, avec une intention, un enthousiasme qui ressemble à celui de l'industrie elle-même, là. Voilà ce qu'on peut en dire à ce stade-ci, finalement, de cette stratégie nationale de l'IA. On verra effectivement si dans une version officielle et formelle, il y a eu des ajouts ou des modifications qui auront été apportées. On suivra ça de près. Au sud de la frontière aussi, ça a bougé sur ce front-là par le biais d'un ordre exécutif du président ou de la présidence américaine. Qu'est-ce que ça contient? Bien, c'est une version pas très musclée d'un encadrement éventuel de l'IA, finalement.
Ça reste un encadrement malgré tout parce qu'on le sait, quand Trump a commencé son deuxième mandat, a essentiellement mis fin à plusieurs réglementations de l'ère Biden. Mais c'est ce nouveau modèle d'Anthropic Mythos qui a poussé le gouvernement à vouloir réglementer quelque peu l'intelligence artificielle. Ce qu'on a appris, c'est que la version originale de cet ordre exécutif-là aurait demandé aux entreprises de soumettre leur nouvelle version de leur produit, leur robot conversationnel, 90 jours avant leur lancement au gouvernement pour qu'ils puissent les inspecter, les tester pour être certain que ça répond à certaines normes, certains standards en termes de sécurité. Mais peu avant qu'ils signent l'ordre exécutif la semaine dernière, il a changé d'idée. Il a consulté beaucoup de chefs d'entreprise de la tech américaine, ça que rapportent plusieurs médias américains, dont New York Times, et a décidé finalement, c'est un peu trop, ça pourrait peut-être venir affecter la compétitivité des États-Unis par rapport à des rivaux comme la Chine.
A mis de l'eau dans son vin, finalement.
A mis de l'eau dans son vin, et finalement, c'est 30 jours. Donc, c'est un peu ça, l'ordre exécutif américain.
Pas surprenant, parce que les choses vont très vite. Tu mentionnes Mythos. Déjà, on entend des rumeurs qu'Anthropic va lancer une nouvelle version. Ça fait quoi? Ça, 30 jours, un mois.
Ouais,
si on mettait un moratoire de 90 jours sur les nouveaux modèles, il y a tout le temps des nouvelles moutures, des modèles qui sont développés. D'ailleurs, en parlant de Mythos, ils ont donné accès, Anthropic a donné accès au modèle à certains gouvernements, dont l'Union européenne et le gouvernement canadien, qui ont commencé à explorer ça. Il y a des rumeurs comme quoi le modèle va être mis à la disposition du public ou du moins une version. On verra ce que ça va faire. Là.
Mais, ce qui était supposément trop dangereux.
Mais ce qu'on a appris aussi, c'est que c'est extrêmement, extrêmement dispendieux à faire fonctionner. Des compagnies qui ont pu avoir accès, ils disent oui, ça trouve des failles en cybersécurité qu'on n'aurait jamais trouvées, mais ça coûte des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars là, pour faire rouler.
C'est ça, mais en théorie, si un acteur malveillant met la main là-dessus, un État, par exemple, des ressources infinies. Encore une fois, tout ça est théorique. On voit que les entreprises qui ont pu mettre la main là-dessus, effectivement, comme tu dis, Jeff, ont pu trouver des failles critiques avec ça. Les gouvernements aussi, qui, j'imagine, vont tester leur propre système. Est-ce que, je sais pas, le système électrique d'un pays pourrait être piraté par un opposant avec Mythos?
Ça pourrait valoir des millions de dollars en calcul.
C'est ça l'inquiétude depuis le début, que les infrastructures critiques, stratégiques des États souverains soient ciblées par des acteurs malveillants par le biais de ce genre d'outils-là. Avant de pivoter vers l'autre angle qu'on voulait explorer ensemble, restons aux États-Unis à l'autre bout du spectre politique. Je veux juste mentionner l'intention de Bernie Sanders, sénateur indépendant du Vermont. Lui, c'est vraiment dans une autre approche complètement. Ce qu'il propose, finalement, c'est un fonds souverain américain financé par les grosses pointures de l'IA. Comment? Par l'imposition d'une taxe unique de 50%, non pas sur leurs profits, mais plutôt sur les actions des plus gros joueurs de cette industrie-là. Il part du principe que l'IA, selon lui, est un bien collectif, une industrie qui s'est bâtie sur des décennies et des décennies de connaissances humaines, de savoir humain, des livres, des films, des contenus médiatiques, j'en passe et j'en passe. Tout ça sans autorisation, sans reconnaissance, sans compensation. D'où cette idée d'une taxe de 50% unique imposée, je le rappelle, sur les actions de ces gros joueurs-là. Voilà pour sa proposition. On verra ce que ça donnait.
On parle depuis un moment de techno-féodalisme, puis là, c'est du techno-socialisme.
Ouais, puis Bernie Sanders, il est vraiment il est rendu profond dans sa croisade contre l'IA. Disons, il a même mis en ligne des entrevues. Il fait des entrevues avec Claude. Assez particulier comme initiative. Je mentionnerais, comme tu parles de fonds souverains, qu'avec le gouvernement canadien, une partie de l'annonce, c'est aussi qu'on va se servir du fameux fonds souverain qu'a annoncé le fédéral récemment pour investir dans les champions canadiens de l'IA. Donc, il y a peut-être petit lien à faire là-dedans.
Restons aux États-Unis. On vous parlait de Erin Brockovich il n'y a pas longtemps.
La fameuse avocate Erin Brockovich que Nicolas connaît très bien, qui a lancé un projet, on en a parlé la semaine dernière, a lancé un projet pour cartographier tous les projets de centres de données liés à l'IA aux États-Unis.
Oui, exactement. Puis on a reçu un courriel de Guillaume qui nous dit « Super intéressant, merci d'en avoir fait mention de cette initiative d'Aaron Brockovich qui est en croisade, comme le dit Jeff, contre les centres de données. Le seul hic, dit-il dans le courriel, c'est que je reconnais le style de l'IA dans l'élaboration du site web. La section Key Concerns est particulièrement typique du style d'interface web que Claude génère. J'espère me tromper. Par contre, comme quoi, dit-il, tout est dans tout. »
Ben écoute, j'ai bien vu, j'ai fait un test. J'ai demandé à Claude de me générer un site web avec 6 problèmes liés à l'IA, puis ce qui a pondu ressemble beaucoup au site de Aaron Brockovich.
Visuellement aussi.
Visuellement, ça ressemble beaucoup avec les petits émoticons.
Ouais.
Et aussi, bon, là encore, ça prouve rien, mais j'ai mis le texte dans Pangram, qui est un détecteur de texte généré par IA qui est réputé être le plus fiable. Puis il me dit que c'est 100% généré par IA. Donc, c'est pas une preuve de quoi que ce soit, mais je penche vers le plausible pour votre question. Donc, ouais. Ça se peut que, ironiquement, cette section-là du site web ait été générée par intelligence artificielle.
Ironiquement, en effet. Aïe, aïe, aïe. Poursuivons, Jeff, sur cette notion de timing que tu évoquais tantôt.
Le timing, oui.
Ouais, c'est important quand même, en toutes circonstances, que ce soit au sport, en politique ou en tech, c'est la même chose. Parce que là, après l'emballement, hype, on est plutôt dans une étape de désenchantement lié notamment au coût de l'IA, surtout en ce qui concerne les entreprises. Et c'est là où il y a un problème de timing avec les annonces dont on vous parlait il y a quelques instants, la stratégie nationale du Canada, notamment. La perception de l'IA et de sa viabilité financière est en train de pivoter. Le doute est pas mal installé. L'IA coûte cher en matière de jetons, de tokens. On peut presque dire que le token maxing est mort.
Oui, ben on l'a vu depuis 2 semaines, je dirais. Là, le vent semble avoir changé. On le voit sur les réseaux sociaux, dans des espaces qui sont normalement réservés aux gens qui utilisent les services d'IA, qui sont friands de ça. Dans les subreddits, par exemple, de Gemini, de Claude, on voit que les gens qui utilisent ça régulièrement ne sont pas trop contents dernièrement. Puis je pense que emblématique de ce changement de sentiment-là, c'est Sam Altman. Il était à un événement d'OpenAI cette semaine, puis il a dit que jusqu'à récemment, là, personne ne parlait des coûts. Leurs clients corporatifs de OpenAI, personne ne parlait des coûts des jetons. Puis là, tout d'un coup, les gens sont vraiment pas contents avec comment ça leur coûte, puis que c'est rendu un problème majeur pour OpenAI, parce que les entreprises, tout d'un coup, sont comme « ça nous coûte super cher », puis on voit pas tant de retour là-dessus. Juste pour préciser là, les jetons.
Ouais, précisons-le quand même.
C'est que, un jeton, c'est comme une fraction de mots, puis c'est comme ça que les systèmes, les grands modèles de langage fonctionnent. Ils analysent les jetons entrants pour générer des jetons extrants. Le modèle de langage ne voit pas nécessairement le texte comme nous. Ce n'est pas des mots, c'est des jetons. Puis, les jetons entrants, ça coûte un certain montant. Les jetons extrants, ça coûte beaucoup plus cher parce que la machine doit faire un calcul.
La capacité de calcul.
Oui, exactement, pour calculer. Puis ça coûte de l'électricité, ça coûte des centres de données, etc. Jusqu'à maintenant, tout ça a été largement subventionné par les entreprises d'IA qui disent « regarde, tu nous donnes 12 $ par mois, 20 $ par mois, 200 $ par mois, puis tu as quasiment infini. » Au début, c'était quasiment infini là, de jetons. Tu peux générer tant de textes que tu veux, tu peux générer tant de codes. Au cours de la dernière année, ça a commencé à se restreindre. Ils ont commencé à imposer des limites parce que toi qui écris un courriel avec ChatGPT, ça n'utilise pas tant de jetons que ça, on va se l'avouer. Là. C'est pas super complexe, mais des gens qui génèrent des milliers de lignes de code, qui utilisent des agents qui roulent pendant des heures et des heures, ça coûte extrêmement cher en jetons. Puis là, ce qu'on voit, c'est que les entreprises commencent à charger aux jetons. Donc, ils disent, tu as tant de crédits de jetons par mois, puis quand tu le dépasses, tu dois en acheter des nouveaux. Puis là, ça commence à frapper un mur. Les entreprises qui utilisent des modèles comme Claude, qui sont super performants pour faire du code, mais qui grugent beaucoup de jetons, commencent à frapper les limites. Puis on l'a vu justement cette semaine, Copilot pour GitHub, donc qui est un assistant IA pour générer du code, ont commencé à charger aux jetons. Puis immédiatement, le mécontentement était absolument partout. Les gens sont comme, j'ai brûlé mon budget de jetons en comme 12 commandes, alors qu'avant, je pouvais durer un mois là-dessus. Fait qu'on voit là, les entreprises vont commencer à prendre conscience de qu'est-ce que ça coûte vraiment générer des choses à l'aide de l'intelligence artificielle, parce que le réel coût de ça a été masqué.
Oui, puis il y a un problème mathématique avec ça, parce que ces entreprises-là prévoient une espèce de croissance illimitée, ou mm-hmm. presque, là, je veux dire, peut-être exponentielle,
c'est
disons.
Ce qu'on fait miroiter.
Donc, on a cette idée que les gens vont se servir de plus en plus de l'IA, mais on voit que le vent change dans les entreprises en tant que telles, parce que tu le mentionnais, le token maxing, là, ouais. cette idée que il y a plusieurs entreprises aux États-Unis qui avaient carrément des classements internes pour voir... Meta, Amazon, Uber avaient des classements internes, ou est-ce qu'on regardait... Quels employés utilisent le plus de jetons? On le valorisait parce qu'on dit, c'est une philosophie, évidemment, quand tu penses 3 secondes, ça n'a pas trop de sens, mais on disait, si tu utilises le plus de jetons possible, tu seras le plus productif. Donc, on encourageait les employés à utiliser le plus de jetons. Ben là, ces entreprises-là, il y en a plusieurs qui sont sorties dans la dernière semaine, on dit, écoute, ça n'a pas vraiment de sens, puis on ne voit pas de retour sur l'investissement, surtout maintenant que plusieurs des fournisseurs passent à une facturation au jeton au lieu de le subventionner, comme disait Jeff.
Mais c'est une évidence à la base. Hein.
C'est une évidence,
puis il y a certaines entreprises qui sont même allées jusqu'à dépenser plus en tokens qu'en salaire, imagine.
Oui, ben c'est ça la question qui se pose après. Wow. C'est comment est-ce qu'on se sert de l'IA? On ne peut pas s'en servir à toutes les sauces si on commence à charger au jeton. Il va falloir cibler quels usages sont les plus utiles, les plus judicieux. Mais si on fait ça, on est en train d'utiliser moins de jetons, on est en train de recourir moins aux services. Donc, est-ce que cette croissance exponentielle peut continuer? Mais en même temps, si on subventionnait cette utilisation-là, ce ne serait jamais profitable. Donc, c'est une espèce de problème mathématique sans fin. Mais j'ai trouvé ça intéressant cette semaine. J'ai vu que Dario Amodei, au balado de Dwarkesh Patel, qui, bon, c'est quelqu'un qui travaille en tech, qui interviewe plusieurs grandes pointures de la tech.
Un balado que tu écoutes la fin de semaine.
Oui, j'ai des beaux passe-temps, Alexis.
C'est classique du lundi, Nicolas qui arrive. J'ai écouté tel balado en fin de semaine. Hey, fin de semaine, repose-toi.
Ça me passionne. Mais il disait, Dario Amodei d'Anthropic, que c'est un peu essentiel pour les entreprises de passer à la facturation par jeton parce que ça leur permet de bâtir un avenir en prévoyant ou en pouvant estimer vraiment la demande qu'ils auront. Parce que si tout le monde est en train de token maxer sans regarder les coûts, c'est difficile de prévoir combien de centres de données dont on aura besoin, combien d'électricité est-ce qu'on aura besoin, alors qu'en facturant au jeton, on peut mieux estimer l'usage réel que les gens vont en faire lorsqu'on aura un modèle économique supposément qui fonctionne. Ouais. Mais c'est là qu'on voit que...
L'avion se construit en plein vol, là. On le voit bien. Là.
Ça, c'est un point que notre ami Editron a fait plusieurs fois. Puis lui, il a vu ça venir. Il disait, il y a même... Un an, il disait, c'est sûr qu'à terme, ils vont charger au jeton, tout le monde le traitait de fou.
Il sent le champagne,
il est allé à Bloomberg, puis il se pète les bretelles en disant, j'ai vu ça venir. Mais tu sais, bravo à lui d'avoir vu ça de très longtemps à l'avance. Mais ce qu'il dit, c'est, étant donné la nature probabilistique des robots conversationnels, c'est très difficile d'estimer les coûts. Tu peux pas dire, regarde, je vais lui demander de faire ça, puis ça va me coûter X nombre de jetons. Tu peux pas le savoir à l'avance. Et aussi, on sait, les robots conversationnels, ça fait des erreurs, ça fait des hallucinations. Des fois, il faut que tu recommences. Quand ça ne te coûte rien recommencer, pas grave. Il fait une erreur dans ton tableau Excel, tu fais juste le régénérer, il n'y a pas de problème. Mais si ça vient de te coûter 8 $
ou 1 000 $
ou 1 000 $ ou tu sais, peu importe. Là, à chaque fois que tu régénères, ça te coûte de l'argent. Ouais. Tu ne peux pas te dire, OK, ben j'ai un budget de X millions de jetons pour mon mois. Est-ce que je peux les proportionner pour tel projet? Tu ne sais pas combien ça va te coûter de jetons à l'avance. Donc, ça va devenir un problème dans les prévisions budgétaires des entreprises à court terme. Là. Puis on le voit déjà, l'attitude est vraiment en train de changer.
Cela dit, les analystes s'entendent pour dire, du moins de ce que j'ai vu, là, que le coût par jeton est en train de baisser au fil du temps. Donc, est-ce que ça va venir équilibrer le tout?
Coût par jeton baisse, mais par exemple, des modèles qui font du raisonnement, qui se invitent eux-mêmes à continuer la réflexion, utilisent plus de jetons. Donc, il y a comme un paradoxe là. Ben, on parlait justement de Mythos. Là, on fait analyser quelque chose, ça dépense tellement de jetons que ça peut coûter des milliers de dollars à Anthropic, là, pas à un client d'Anthropic.
C'est important de le dire parce qu'Anthropic a surpassé OpenAI en termes de clients corporatifs récemment.
Et en valeur boursière potentielle.
Exactement, mais plus ça coûte cher, plus ça pénalise ces entreprises qui sont plus nombreuses à être avec Claude, alors plus ça pénalise Anthropic. D'ailleurs, avant que tu poursuives, Nicolas, l'anecdote qui m'a fait bien sourire, et c'est Jeff qui me l'avait relevé, cette histoire de directeur financier qui, par erreur, a dépensé 1,5 milliard $ en tokens avec Claude.
Donc, a décidé de laisser ses employés utiliser Claude sans mettre de limite sur le budget, puis aurait brûlé 500 millions de dollars
en millions,
travail de calcul en un mois. On ne sait pas c'est qui.
Mais c'est anonyme. Ouais, c'est un anonyme qui a dit ça à Axios.
Axios,
c'est ça, ouais.
Bon, on ne sait pas c'est quelle compagnie, mais comme. Imaginez, là, imaginez ça, c'est le genre d'anecdote qu'on va voir dans quelques années, puis dire l'exubérance du début des années 2020 envers l'intelligence artificielle, c'était absolument absurde. Et c'est peut-être une coïncidence, mais Anthropic vient d'avoir son premier trimestre profitable.
Oui.
Puis, ben, on voit que quelqu'un a dépensé 500 millions de dollars sur des jetons. Écoute.
En tout cas.
T'allais dire quelque chose, Nicolas?
Mais j'allais juste dire, tu sais, peut-être que, en raison de ce nouveau modèle d'affaires de plusieurs des géants de l'IA, parce que c'est pas encore tout le monde là, qui est embarqué sur la facturation par jeton, mais peut-être qu'on verra un changement vers des modèles locaux, des modèles...
Open source,
justement, des modèles en code source ouvert. Mm-hmm. Parce que ça, ben oui, il faut que tu aies des machines assez puissantes pour les... exécuter ces modèles-là. Mais c'est peut-être un modèle qui serait plus économe pour la plupart des utilisations, dépendant du genre d'emploi qu'on occupe. Là. Si on veut juste faire du traitement de texte ou des choses comme ça, peut-être que c'est pas très utile de payer pour un modèle comme ça. C'est certain que dans d'autres domaines, comme la programmation avancée, des choses comme ça, ça a du sens de payer pour des modèles plus performants. Mais peut-être qu'une partie des clients corporatifs vont se tourner vers du code source ouvert parce qu'en bout de ligne, ça a plus de sens.
Ça se peut bien. Puis on l'avait vu quand on avait tourné l'épisode du balado devant le public, puis on le voit dans les courriels et les commentaires qu'on reçoit. Il y a plusieurs des gens qui nous écoutent, qui travaillent justement en tech, qui font justement du travail de programmation et tout ça. Parlez-nous de votre expérience en termes de consommation de tokens.
Est-ce qu'il y a du token maxing dans votre entreprise? Il y a comme une vision, je pense, chez certains employeurs que le plus tu utilises de jetons, le plus que tu es utile. Je pense que tu es en train de changer comme vision, mais on serait intéressé de savoir comment ça se passe chez vous.
Oui, tout à fait. Les témoignages sont les bienvenus. Ça nous aide, ça stimule notre réflexion et ça l'enrichit, bien entendu. Tout ça se déroule, alors, comme on l'évoquait tout à l'heure, la course à l'armement qui a caractérisé l'IA se double maintenant d'une course à l'entrée en bourse. Hein. C'est ce qu'on voit en ce moment. Il y a SpaceX, on l'a évoqué, c'est prévu pour le 12 juin.
Donc, vendredi prochain.
OK. Moi, on fait la parenthèse.
C'est comme tu veux, c'est toi le boss.
Non, c'est pas moi le boss. Tu le sais, c'est horizontal. Non, parce que moi, quand je dis vendredi prochain, disons qu'on est...
On est jeudi aujourd'hui.
Puis quand je dis vendredi prochain, je veux dire demain, parce que c'est le prochain vendredi. Mais vous êtes...
Non, ça, c'est vendredi qui s'en vient. Vendredi prochain, c'est le 12 juin.
Mais moi, non, vendredi qui s'en vient, c'est juste vendredi.
OK, ben, mais supposons qu'on est mardi. En tout cas, quand je dis vendredi prochain, est-ce que c'est vendredi cette semaine ou vendredi de la semaine prochaine?
Cette semaine.
On veut savoir dans les commentaires.
Ouais, allez, dites-nous c'est quoi votre opinion
équipe
là-dessus.
Équipe Jeff ou équipe Alexis?
Exactement. Allez, un autre sondage. On aime ça.
Donc, vendredi le 12 juin, oui, SpaceX va entrer en bourse. On va suivre ça. Il y a scandale potentiel à l'horizon avec la façon dont les principaux index financiers ont un peu traficoté ça pour... dérouler le tapis à SpaceX. J'ai vu énormément d'analystes financiers s'inquiéter. Puis on vous en parlera, je pense, la semaine prochaine, ça va être plus approprié, disons, ça s'en vient.
Oui, parce que cette semaine, ce dont on veut parler, c'est Anthropic, en fait, qui a franchi un premier pas vers cette entrée en bourse, alors qui pourrait donc damer le pion à OpenAI. C'est là où ça joue en ce moment. Le capital de risque atteint ses limites. L'autre étape, l'autre voie de sortie pour rester profitable, c'est l'entrée en bourse.
Oui, donc Anthropic a déposé son formulaire S1, qui est la première étape pour être coté en bourse aux États-Unis, mais il le fait de façon confidentiel. Il n'y a rien de nécessairement mal à ça. C'est juste qu'en ce moment, c'est seulement la SEC, là, l'organisme américain qui gère là, la bourse. Mm-hmm. C'est seulement la SEC qui a accès à ce document-là. Ils vont vérifier si tout est en ordre. Puis si jamais tout est beau, Anthropic a l'option d'être coté en bourse. Ils ne sont pas forcés de le faire. Donc, on n'a pas accès à ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On est énormément intéressé par ça. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va être la première fois qu'on va voir vraiment... Là, un des gros joueurs se mettre à nu, de voir leur santé financière.
Ils n'ont pas le choix. Là.
Ils n'auront absolument pas le choix de dévoiler leurs chiffres. On a déjà vu la portion intelligence artificielle de SpaceX, donc XAI.
Ouais.
Beaucoup d'analystes ont fait remarquer que c'est un gouffre financier au sein de SpaceX, puis que c'est la filière de l'entreprise qui est la moins en santé. Mais XAI, ça reste quand même pas le plus gros joueur au monde, là, Anthropic, voir, surtout que se sont mis à faire les manchettes au cours des dernières semaines en disant qu'ils ont eu leur premier trimestre profitable. Selon quelle base, selon quelle manière de calculer, on ne sait pas. Donc, on suit ça. C'est une question de semaine, là, on n'en doute pas.
Donc, ça reste sur notre radar. Je souligne au passage une observation du Wall Street Journal selon qui les banques ont indiqué à Anthropic et à OpenAI que la première des deux entreprises à entrer en bourse aura la priorité des grands fonds disponibles pour soutenir ces entreprises-là. D'où cette idée d'urgence, ce sentiment d'urgence qui les habite notamment. Donc, à suivre sur notre radar. Parlons de ce piratage. Le piratage des outils Meta, en fait des plateformes Meta, Instagram et Facebook. Quand un assistant IA se met à faire du service à la clientèle, ça se peut que ça se termine mal.
Ben écoute, je vais juste commencer le segment en disant c'est une histoire d'une petite start-up qui n'a pas beaucoup de ressources, donc c'est des choses qui arrivent. Tu sais, cette start-up s'appelle Meta.
Ouais, ouais. Une jeune pousse, hein.
Ouais, une jeune pousse, donc tu sais, ça se peut de faire des erreurs comme ça. T'sais.
Ben oui, ça se peut. Mais c'est ça qui est arrivé un peu, là.
Ouais, écoute, ils ont lancé un service à la clientèle IA. Donc c'est un agent IA. C'était seulement sur une portion de compte, donc c'est pas de l'ensemble des comptes qui y avait accès. Et. Ben, des pirates ont réussi à prendre le contrôle de comptes
facilement
en déjouant cet agent-là très facilement. Donc, il disait « Bonjour, je suis ce compte, je veux changer le courriel qui est associé. » Donc là, l'assistant disait « OK, d'accord, c'est quoi le nouveau courriel ?» Il lui donnait le nouveau courriel, l'assistant lui fournit un code.
Il n'y a pas un VPN dans tout ça?
Oui, il faut avoir un VPN pour être dans l'emplacement approximatif du compte. Mais bon, c'est pas, tu sais, on s'entend, c'est pas
non,
difficile.
Puis, j'ai vu du monde dire que ça s'est fait pirater leur compte alors qu'ils avaient l'authentification multifactorielle. Mm-hmm. Donc, même si tu disais ah, il faut absolument passer par une application d'authentification, en passant par l'agent IA de Meta, tu peux juste changer le courriel puis recevoir le code dans le nouveau courriel que tu as donné. Très drôle, il y a Jane Manchin Wong, qui est chercheur en cybersécurité et ancien employé de Meta qui s'est fait voler son compte.
Ah ouais.
T'es comme, je ne comprends pas, j'ai plus accès à mon compte. Puis aussi, ce qui est très inquiétant là-dedans, c'est que ça te sortait de toutes les versions ouvertes de ton compte. Donc, tu ne pouvais pas, toi, reprendre contrôle de ton compte. Puis là, il y a beaucoup de gens qui ont eu vraiment de la misère à contacter Meta en disant, ben regardez, je me suis fait voler mon compte, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, parce que le courriel associé au compte a été changé. Donc, tu as de la misère à authentifier que c'est toi. Donc, supposément, c'est réglé, là, selon le vice-président des communications, Andy Stone, qui a écrit sur X, pas sur Threads ou sur Instagram, mais sur X, que ça a été réglé, que les comptes qui ont été compromis, là, on a réglé ça, puis que cette porte dérobée-là, en passant par l'agent d'IA, ça ne fonctionne plus. Mais il y a du monde qui ont remis ça en question, d'après ce que je comprends.
Oui, ça reste à voir. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a quand même eu des coups d'éclat dans tout ça. Ce qui était recherché, c'était pas toujours n'importe quel profil. Hein. Des profils en particulier ont été piratés qui ont fait grand bruit.
Oui, ben on a beaucoup entendu parler du compte de la Maison Blanche de Barack Obama qui a été piraté. Donc, pas son compte à lui, mais vraiment de son administration qui est inactif depuis quelques temps. Là. Puis ça semblait être lié à l'Iran, en fait. Donc, il y a eu des messages pro-Iran qui ont été publiés sur le compte.
Andy Stone a dit que ça avait pas été piraté par cette méthode-là. Il a dit que c'était faux. Sur X, il a répondu à quelqu'un. Il disait non, oui, ça a été piraté, mais pas par cette méthode-là, en passant par l'agent conversationnel. Drôle de coïncidence, on s'entend.
Oui, c'est ce qu'il dit.
Des comptes, ça, c'est souvent piraté, là, je veux dire, ça arrive. Fait que selon Meta,
drôle
là,
de timing,
c'est,
disons. Hein?
Le compte de la Maison Blanche d'Obama, c'est pas lié à cette faille.
Ah, ben c'est rassurant alors.
OK. Mais oui, ce sont aussi. Ce qu'on a remarqué, c'est un groupe de pirates sur Telegram là, qui ciblaient des comptes avec des handles, des noms d'utilisateurs.
Des comptes OG, qu'on dit.
OG handles.
Des noms d'utilisateurs qui sont potentiellement plus intéressants à obtenir. Ils se sont concentrés plus là-dessus, d'après ce que je comprends.
Ça vaut cher.
Ouais, moins qu'en sur des célébrités. Là. Ils n'ont pas piraté le compte de Taylor Swift.
Ouais, j'avais essayé de voir si des comptes de personnalités québécoises connues avaient été piratés, mais j'en ai pas vu. Mais j'étais peut-être trop en retard pour... pour l'observer. Ouais. Je suis allé voir ce qui est les Québécois et Québécoises les plus suivis sur Instagram. J'ai rien vu de la sorte.
C'est qui d'ailleurs?
Écoute, j'ai plus ouvert là, mais.
Non, c'est correct.
Je sais que SJ Blow est parmi les.
C'était par curiosité.
Parmi les plus suivis.
Mais bon, t'as rien vu de tout ça, mais ce que t'as vu passer, mon cher Nicolas, pendant que tu fais ta petite recherche, là,
ouais.
C'est qu'il y a une petite mise à jour à faire dans le dossier C22. Est-ce que tu as obtenu une réponse que tu attendais depuis longtemps, mon cher Nicolas?
Bon, alors la semaine dernière, on mentionnait qu'il y avait un représentant de la GRC dans un comité parlementaire qui semblait indiquer en fait que le projet de loi C22 permettrait à la GRC de contourner le chiffrement. Donc, on en a parlé au balado. J'ai contacté la GRC avant le balado. Je leur ai demandé tout simplement, est-ce que c'est ça qu'il est en train de dire? Sinon, qu'est-ce qu'il est en train de dire? La GRC m'est revenue hier. Donc, une semaine après que j'ai envoyé ma demande. Et je dois dire, leur réponse n'est pas tout à fait claire. Donc, c'est pas super rassurant pour les gens qui s'inquiètent des potentielles dérives de ce projet de loi-là. On le rappelle, il y a plusieurs entreprises technologiques qui disent que selon elles, selon leur lecture des choses, ça pourrait demander d'elles de briser le chiffrement. Ce que dit la GRC, c'est que le projet de loi C22, ça ne va pas demander d'installer des portes dérobées ni d'affaiblir les protections électroniques, ce qu'ils me disent dans le courriel. Par contre, par la suite, ils disent que le chiffrement est un outil qui est important pour protéger la cybersécurité, la vie privée et la sécurité économique des Canadiens. Mm-hmm. Cependant, il y a des criminels qui utilisent le chiffrement pour masquer leurs activités, pour faire de l'exploitation d'enfants, pour faire des activités criminelles graves, pour faire du terrorisme, etc. Et ensuite, ils disent que des changements comme la normalisation des capacités techniques des fournisseurs de services électroniques permettront un accès rapide à des renseignements qui aideront les services policiers à faire progresser leurs enquêtes. Ils disent aussi que les fournisseurs de services électroniques pourront contester l'exigence de mettre en place certaines capacités techniques s'ils peuvent démontrer que ça pourrait introduire une vulnérabilité systémique. Mmh. Là, honnêtement, là, avec la réponse qu'ils ont donnée, je ne suis pas à l'aise d'interpréter tout ce qu'ils disent, parce que c'est pas clair du tout, alors que ma question, elle, était très claire. Je leur ai donc reposé la même question et je vais vous revenir si jamais on a de la clarté là-dessus. Mais il faut dire, là, encore cette semaine, plusieurs entreprises ont exprimé leur insatisfaction avec le projet de loi. Il y a Signal aussi qui a témoigné au comité pour réitérer que si le projet de loi passe sa forme actuelle, il pourrait juste quitter le Canada dans son ensemble. Donc, je dirais très peu de clarté sur le chiffrement là-dedans, dans leur réponse.
Non, j'ai lu le courriel, j'ai pas compris. En toute franchise.
C'est un fiasco
surtout
de communication.
Quand on disait, ça fait deux, trois semaines qu'on en parle au balado, qu'il y a un flou autour de ce projet de loi-là, que le ministre, là, Gary Anandasagari, dit que personne ne comprend son projet de loi, que bon, les gens qui protestent contre ça, les experts, les entreprises de la tech ne comprennent pas. Là, on demande une question quand même assez claire, puis honnêtement, je vois pas comment qu'on a obtenu on n'a pas obtenu une réponse plus clair. On va vous revenir avec ça, mais je comprends pas leur réponse.
C'est ça le fil narratif depuis le début de cette histoire-là, c'est le manque de clarté donc dans toute l'élaboration, la présentation et l'explication de ce projet de loi.
Et l'empressement du gouvernement pour que le projet de loi soit adopté.
En plus,
on veut que ça se fasse avant la pause estivale du Parlement.
C'est demain matin.
C'est le 19 juin.
Ah oui.
Alors que personne ne comprend ce projet de loi-là.
Selon le ministre.
19 juin, ça c'est pas la semaine prochaine, c'est l'autre d'après.
Ouais. Bon.
ce qui est par contre pas la semaine prochaine ni l'autre d'après, c'est en ce moment que ça se passe. C'est toute cette fièvre, cet enthousiasme entourant Backrooms, un phénomène dont on voulait vous parler absolument. C'est un phénomène cinématographique, oui, mais c'est en quelque sorte quelque chose qui dérive directement de la culture web dans laquelle on baigne. Je ne sais pas si vous l'avez vu, n'hésitez pas à commenter le segment qu'on s'apprête à enregistrer. Là, on serait curieux d'entendre vos impressions sur le film, mais aussi sur ce que ça représente, parce que Backrooms, à la base, c'est quoi? C'est un mime.
Oui, immense succès. Hein? Le réalisateur Ken Parsons a 20 ans. Il est né en 2006. il avait un budget de 10 millions de dollars pour faire son film basé sur un mime Internet. Puis c'est un franc succès. Ça fracasse tous les records pour des films d'horreur basés sur des propriétés intellectuelles originales. Ça va promettre le plus grand succès de A24, la boîte de production. Nicolas, tu l'as vu. T'as aimé ça, je pense.
Oui, j'ai bien aimé. C'était Écoute, premièrement, Kane Parsons, c'est un YouTuber à la base, mais en tout cas, c'est un réalisateur de courts-métrages qui mettait ses courts-métrages sur YouTube parce qu'il a fait toute une série de vidéos sur Backrooms. On parlera davantage de c'est quoi, là.
Oui, il faudrait.
Mais, tu sais, je veux dire, le film est super bien réalisé, les décors sont vraiment impressionnants aussi. On a vraiment une espèce de sentiment d'isolement, de claustrophobie aussi. Mm-hmm. Il y a certaines scènes qui sont tournées dans une esthétique found footage, donc images retrouvées, c'est-à-dire c'est une esthétique comme si que on a trouvé des vieux enregistrements. Dans ce cas-ci, c'est un personnage qui filme avec une caméra, une vieille caméra, là. Puis c'est comme ça que sa série sur YouTube est filmée également. Donc, on voit qu'il emprunte l'esthétique pour une portion du film. C'était pas un film parfait, nécessairement. J'ai quelques réserves avec l'écriture et le scénario. Mais je veux dire, globalement, expérience vraiment cool. Puis j'ai pas vu le temps passer, là. C'était 2 heures, puis c'était très bon.
Mais ça, c'est l'aboutissement de tout un phénomène, de toute une sous-culture numérique qui s'est développé au cours des dernières années et qui a comme point d'origine, en 2019, la publication d'une image sur 4chan.
Ouais, c'est ça. Un film basé sur, en gros, un meme qui est parti sur 4chan. En 2019, dans la section du site paranormal, il y a quelqu'un qui a mis une photo de ce qui a l'air d'un corridor ou d'une salle de conférence d'hôtel jaunâtre. L'image est comme un peu bizarre, puis ça fait juste... La personne a juste dit, mettez des photos d'images qui semblent off, des images qui semblent un peu bizarres.
Un peu hantées.
Un peu hantées, ouais. Puis cette image-là a quand même fait beaucoup réagir. Il y a beaucoup de gens qui ont mis des photos qui semblaient elles aussi off. Il y a quelque chose dans l'image, on va la mettre à l'écran là, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, mais il y a quelque chose de bizarre, honnêtement, là, en voyant cette image-là. Mm-hmm. C'est une image en basse résolution d'un endroit qui semble vide. Sans nécessairement être désaffecté, si on se comprend bien.
Ouais.
Donc, le monde, on continue à mettre des images là-dedans. Puis là, où les backrooms ont réellement pris leur envol, c'est quelqu'un un peu plus bas dans la discussion a mis un commentaire là, qui jetait les premières bases d'une genre d'histoire d'horreur derrière l'image en disant que si tu fais pas attention, tu peux « no clip », donc passer à travers les parois de la réalité puis te retrouver dans les backrooms qui sont comme un immense labyrinthe de corridors vides comme ça, des centaines de milliers de kilomètres, où tu fais juste... Le seul bruit que tu entends, c'est les néons qui illuminent la pièce. Sauf que aussi, tu entends peut-être quelque chose qui te surveille loin dans un des corridors désaffectés. Donc, ce message-là, combiné à l'image... c'est là que ça a pris son envol. Le monde s'imaginait comme... C'est comme si un univers avait été créé avec juste un paragraphe de texte puis une image.
Ouais, puis ça vient de l'univers... Tu sais, on dit meme, etc., mais spécifiquement, c'est un creepypasta qu'on dit. Ouais. Donc, ça, c'est comme des légendes urbaines ou des histoires qui souvent se transmettent par copier-coller, justement, comme ça. Et le but, c'est que ce soit des histoires épeurantes, des histoires d'horreur. Des fois, c'est narré sur YouTube. Les gens vont aller prendre Puis il y a aussi des threads, donc des discussions sur 4chan de creepypasta aussi, parce que les gens vont en partager et tout. Donc les backrooms, il y a tout un univers qui s'est créé avec ça. C'est collaboratif aussi. Il y a un wiki.
Il y a un aspect fanfic un peu, là.
Ben, tu sais, le no clip, c'est un concept de jeu vidéo. Ouais. Tu sais, c'est quand un jeu va comme glitcher puis tu vas passer à travers un mur. Ben là, les backrooms, c'est tout un univers qui s'est créé où est-ce que l'image en question de l'espace jaunâtre, c'est comme le niveau 1, mais là, il y a comme le niveau 2, niveau 3. Il y a des milliers de niveaux qui sont créés de manière collaborative dans des wikis en ligne. Et tout un univers qui s'est créé avec ça. Ça appartient à personne, l'idée, là, finalement.
Mais ça qui est drôle, c'est que j'ai vu dans la discussion originale sur 4chan, il y a du monde plus tard qui sont venus répondre à la personne qui a écrit le premier paragraphe en disant « Bro, A24 te doivent de l'argent. » Parce qu'il y a quand même... Cette personne-là a créé cet univers-là. Les autres sont venus et ont commencé à participer à l'élaboration. Mais cette personne-là, la première personne, on ne sait pas c'est qui, mais a quand même créé ce concept-là des backrooms.
Mais une chose qui est importante de souligner, c'est qu'il y a quand même un cadre temporel dans tout ça. On associe cette image, cet univers, cet esprit, cette atmosphère aux années 90. C'est un peu ça l'esthétique qui est véhiculée aussi. Là.
Le concept des backrooms a comme donné naissance à une nouvelle catégorie de contenu qui s'appelle les liminal spaces. Il y a un subreddit quand même assez populaire là-dessus. Puis c'est où les gens trouvent des images un peu comme ça. Comme je disais, c'est des images qui sont... C'est des endroits, mais pas laissé à l'abandon. Tu sais, tu verrais pas comme... Un liminal space, c'est pas comme un chalet abandonné qui tombe en ruine. Ce sont des endroits qui sont entretenus, des endroits qui ont une vocation publique où il est supposé avoir des gens, puis il n'y en a pas. Donc, le monde va souvent poster des photos de salles de conférences de motels, des centres d'achat où tu vois personne, des endroits dans la rue, par exemple, où tu vois pas d'humain, dans le fond. Ça crée un genre d'anxiété à voir ces endroits-là qui sont supposés avoir des gens, puis il n'y en a pas. Puis c'est souvent aussi des photos, c'est de l'architecture typique des années 90. Voilà. C'est souvent pris avec des caméras des années 90. Dans le subreddit Liminal Spaces, tu vois souvent des gens dire « Hey, j'ai trouvé ces photos de voyage-là de ma mère qu'elle a pris en 2003 ou en 1998. » Puis là, ils montent ça, puis ça, les gens sont comme « Ah ouais, c'est du Liminal Space. »
Puis ça peut aussi être jumelé à de la musique. Il y avait toute la tendance du Vaporwave, par exemple, ouais, que c'était un son comme lo-fi, années 80 dans ce cas-ci, avec de l'écho. Il y a toute une espèce d'esthétique autour de ça. Qui n'est pas nécessairement exploité par Kane Parsons, il faut le dire, parce qu'il y a tout l'aspect wiki de la chose, collaboratif, etc., puis les Liminal Spaces, mais la série de Kane Parsons est différente. C'est lui, pas qu'il rejette, là, mais oui, en fait, il rejette un peu toute cette idée de comme les différents niveaux des backrooms. C'est plus une interprétation sci-fi de la chose, puis okay. Peut-être pour les 30 prochaines secondes, il y aura des divulgâcheurs du film, donc je vais me partir un timer sur mon ordinateur, si vous voulez aucunement être divulgâché, avancer 30 secondes à partir de maintenant.
Ben non, mais donc, j'ai arrêté de t'écouter. Là.
Non, mais c'est juste, c'est vraiment pas super. Mais dans sa série sur YouTube, okay, parce que si on a vu la série YouTube, on le sait aussi. Moi, perso, j'avais juste vu la première vidéo, donc je connaissais pas tout l'univers. Mais les backrooms sont associés à une entreprise qui fait de la recherche sur des dimensions alternatives. Il y a tout un projet gouvernemental là-dedans aussi. Puis ça, c'est vraiment son univers à lui qui ne fait pas partie de cette espèce d'imaginaire collectif des wikis des backrooms. Donc, il y a vraiment plusieurs interprétations. Puis Kane Parsons a la sienne. Le 30 secondes est terminé, on peut continuer.
30 secondes, 30 secondes.
On mentionne que c'est ça. Là. Il y a vraiment comme plusieurs interprétations. Puis celle de Kane Parsons, non seulement c'est son propre univers, mais c'est hyper viral et populaire. Là. Les vidéos sur YouTube ont des dizaines de millions de vues. Puis c'est ça qui a aussi beaucoup popularisé le concept.
Ben, qui a fait en sorte que c'est un événement en soi. Il y a comme un engouement qu'on voit dans les salles de cinéma chez les 18-24 ans qui avaient pourtant déserté ces lieux-là. C'est ça qui devient en ce moment intéressant aussi à décortiquer, analyser.
Oui, puis la manière que je l'interprète, c'est il y a vraiment un élément nostalgique à ça. Puis ironiquement, une nostalgie pour une époque que beaucoup de gens qui vont voir ce film-là n'ont jamais vécu. Kane Parsons, comme je disais, il est né en 2006, mais son film se passe dans les années 90. Il n'était pas vivant.
Il n'avait même pas l'âge légal pour boire. Puis la thématique de l'alcoolisme revient dans le film aussi.
Mais tu sais, l'esthétique des vieilles caméras vidéo avec cassettes.
Oui, oui.
Comme je disais, les espaces, liminal spaces, qui sont associés là, au backroom, c'est souvent des endroits des années 90, tu sais, des salles d'attente, des motels. Il y a quelque chose de nostalgique là-dedans, mais il y a aussi, je pense, faut pas ignorer l'aspect que c'est des endroits publics, qu'il n'y a pas de gens là. Le phénomène backrooms a vraiment pris son envol dans les années 2020. Kane Parsons, lui, il a commencé à faire ses vidéos backrooms en 2022, en pleine pandémie. Puis, des gens qui étaient adolescents pendant la pandémie, j'imagine que c'était traumatisant de voir des endroits publics où il n'y a pas d'être humain. On a vidé les espaces publics pendant la pandémie. Mm-hmm. Je peux imaginer que c'est un choc.
Ah, c'est intéressant, ça.
C'est un traumatisme là, pour des jeunes personnes. Mm. Puis, c'est comme ça qu'il l'exprime à travers des histoires d'horreur comme ça avec les backrooms. On sait que l'horreur, ça vient souvent de peurs primales, des choses qu'on peut même pas se l'expliquer à soi-même, mais c'est comme un inconfort qu'on vit. Mm-hmm. Puis ce concept-là des backrooms, ces images-là, mm-hmm, liminal space, ça crée un inconfort en les voyant. Puis l'horreur est comme tout désigné dans ce format-là.
Mais là, on parle beaucoup de backrooms, mais il n'y a pas que backrooms dans cet écosystème naissant qui est en train de se forger. Il y a eu aussi Obsession, un film un peu dans la même fracture, dans le même esprit, dans le même, plus ou moins, le même univers. C'est-à-dire fait par des créateurs issus du numérique et qui aboutissent avec des productions un peu plus léchées, avec plus de financement, mais pas tant que ça. exploité par Hollywood. Dans le cas de A24, c'est ça qu'on exploite en ce moment, cette maison de production qui a produit Backrooms.
Oui, Obsession, il faut le dire, c'est pas A24 qui est derrière le film, mais Backrooms, oui. Puis je pense qu'il faut juste le mentionner. Je pense qu'il y a comme beaucoup cette idée de, comme, ah, c'est des YouTubers qui font les films, mais c'est, ça enlève absolument rien au caractère.
Non, mais c'est pas péjoratif.
Non, je sais, mais je pense que dans l'imaginaire collectif, on trace une ligne entre, comme, ah, c'est des YouTubers ou des réalisateurs professionnels. Dans l'époque qu'on est, ces gens-là sont capables de faire des produits hyper léchés. Puis quand on leur donne les moyens pour le faire, ils peuvent
aller voir la première vidéo de Backrooms de Kane Parsons.
Très bien fait.
On l'a regardé ce matin. Il y avait 15 ans. Ouais. Il y avait 15 ans quand il a fait ça. Comme, honnêtement, il y a un talent absolument indéniable. Là. Donc, c'est pas... Ah, c'est un YouTuber, c'est pas une gimmick là, pour aller chercher un film.
Non, c'était pas dans le sens que je disais, mais c'est deux univers qui se rencontrent quand même.
Puis Obsession, le budget, c'est à peu près $1 million. Backrooms, c'est à peu près 10 millions, donc des très petits budgets. Puis ça rentre beaucoup dans ce changement de l'industrie cinématographique aussi, parce qu'on le sait, le monde va moins au cinéma. Les films à hyper, hyper grand budget, ça se fait de moins en moins parce qu'il y a moins de monde qui vont. Les box-office, depuis la pandémie, sont plus bas. Et A24, c'est vraiment un studio qui a une approche... original, là, bon, ils sortent vraiment plus de films qu'avant. La qualité est plus variable qu'avant parce que fut un temps que la philosophie du studio, c'était vraiment de donner une grande liberté créative à des réalisateurs qui, très souvent, écrivaient le film aussi. Dans le cas de Backrooms, c'est pas Kane Parsons qui l'a écrit, il l'a juste réalisé. Mais on leur donne une liberté créative totale et on mise sur l'originalité des projets pour espérer frapper des coups de circuit, avoir des succès relatifs avec des petits budgets. Et on le voit dans le cas de Backrooms, ça risque d'être, comme le disait Jeff, le film qui a généré le plus d'argent pour A24, déjà dans sa première fin de semaine, ça fait plus d'argent que Marty Supreme quand a fait même. Dans sa première fin de semaine l'an dernier. Puis Marty Supreme, c'était un film qui a connu quand même un très grand succès. Puis quand on parle d'A24, là, je veux dire, c'est un studio qui a produit énormément d'excellents films dans les dernières années. Puis j'en ai un que je voulais juste nommer qui est un coup de cœur personnel, c'est Eighth Grade, qui a été réalisé par Bo Burnham.
Ah oui, oui, oui.
Et c'est A24 qui l'a distribué. Ça, c'est un des films, honnêtement, selon moi, qui dépeint de manière la plus réaliste la relation des adolescents ou des jeunes avec la technologie, avec les réseaux sociaux. Mais ils en ont produit tellement ils ont produit tellement de bons films ces dernières années avec cette approche-là. Puis je pense que Backroom, c'est vraiment l'aboutissement de leur philosophie et peut-être un de leurs films qui va le plus percer dans le mainstream, là, dans le grand public.
Ça a eu une plus grosse fin de semaine que Mandalorian et Grogu.
C'est Star Wars.
C'est un film Star Wars. Le fait qu'Hollywood se tourne vers des youtubeurs, c'est pas surprenant. Comme tu disais, l'industrie un peu de la misère, ça bat de l'aile. Peut-être parce que pas juste que les gens veulent pas aller au cinéma, mais peut-être que l'offre est un peu bizarre en ce moment. C'est beaucoup des séries de films, des suites, des propriétés intellectuelles existantes comme Star Wars, alors que, bon, des affaires comme Backrooms, c'est frais, c'est nouveau. Mais il y a aussi le fait que, ben, c'est juste logique. T'sais. Quand tu fais affaire avec un YouTuber, ben, t'as déjà... cette personne-là a des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés. Donc, tu te dis peut-être qu'on a une base. Ces gens-là vont aller voir le film de toute façon. Mais aussi, il ne faut pas se le cacher. YouTube, c'est une plateforme audiovisuelle. Puis les YouTubers, c'est des cinéastes en quelque sorte. T'sais, ils font du contenu audiovisuel. Donc, c'est quand même tout désigné. Puis, tu sais, il y a le YouTuber de cinéma, Patrick Willem, qui faisait remarquer l'année passée. Il disait que l'époque des stars hollywoodiennes, c'est pas mal mort. Comme, anciennement, on allait voir des films parce que Tom Cruise est dedans, parce que Harrison Ford est dedans. Puis il y a eu des sondages dernièrement là, où on demandait aux gens, c'est quoi les acteurs que tu irais voir un film juste sur la base que l'acteur est dans le film. Puis la plupart des gens, des acteurs qui étaient mentionnés étaient de...
Des plus âgés dans les 30
ans. Étaient plus âgés, donc étaient là, avant les années 2000. Donc les gens vont plus voir des films parce qu'un acteur est dedans. Maintenant, c'est peut-être un peu plus parce que bon, c'est un film Star Wars, parce que c'est un film Marvel. Puis ben, peut-être que maintenant les gens vont aller voir parce que leur YouTuber préféré a réalisé le film. Peut-être qu'il y a quelque chose là de voir la culture moderne des jeunes qui se fait beaucoup sur les réseaux sociaux être reflété dans les produits culturels à grand déploiement à Hollywood. Peut-être que ça va attirer plus de gens.
Moi, puis il y a aussi de l'emballement organique à travers tout ça. Je veux dire, moi, hier, en allant au cinéma, j'ai ouvert TikTok, puis c'était juste backrooms que je voyais. J'ai pas, tu sais, il y a rien qui indiquait, je pense, dans mon historique sur la plateforme que je serais intéressé à ça, mais je voyais quasiment juste ça. Il y a vraiment un emballement derrière ça. Puis ça, on a vu que ça peut propulser des films dans le box-office.
Ben oui,
c'est très organique.
C'est tout cul dans le bec pour l'industrie du cinéma. Ouais. Quand elle fait juste prendre la balle au bon, il y a déjà une viralité inhérente au phénomène, que ce soit backrooms ou un autre. Puis ensuite, ben, ça se transforme en événement. On en jasait hier, Jeff et moi, et puis Jeff se remémorait l'époque de Oppenheimer puis de Barbie.
Oui.
Puis tu sais comment ça devenait, finalement, il y avait un buzz naturel à tout ça. Ben là, le buzz existe déjà depuis un certain temps sur Backrooms. C'est sûr que le film, ça valait bien. Là.
Mais c'est un succès indéniable, puis tu peux pas le générer, ce moment viral-là.
T'sais,
tout le monde aimerait ça, que leur film soit viral. C'est impossible à générer. Puis là, aller voir Backrooms, c'est devenu un événement où, justement, ça te permet de créer du contenu en allant le voir. Tu sais, on a vu quelques exemples comme ça, comme Barbenheimer, il y a 2 ans maintenant, où le film Oppenheimer sortait le même jour que Barbie. Puis là, c'était comme l'événement culturel de l'été. Le monde allait voir les deux films déguisés. Tu sais, c'est deux films qui auraient bien réussi, mais le fait que cette date de sortie-là soit un meme. Tu sais, il y a d'autres exemples. Ce serait le film Minecraft où tout le monde allait en cinéma, puis là, il lançait du popcorn quand il y avait le bonhomme en poulet.
Aller voir les Minions en suit, en complet.
Oui, en complet.
Mais puis l'an dernier aussi, Marty Supreme, c'était quand même quelque chose qui avait un certain buzz réseaux sociaux. Tu sais, on voit du monde faire des edits avec ça, faire du contenu pour. Tu sais, c'est quasiment. Tu me dis, Chalamet, c'était un des acteurs. Il était-tu dans le sondage?
Non, il était pas. Le seul acteur moderne qui était mentionné, c'était Ryan Reynolds.
OK, intéressant.
Ryan Reynolds puis The Rock.
Ah, The Rock. Ben voilà, vous le voyez qu'au-delà de la gastronomie et de la bouffe, on aime parler de cinéma. Ça fait aussi pas mal partie de nos discussions. Je suis persuadé que ce dont on vient de parler, Backrooms, le phénomène, pas juste le film, le phénomène qui l'entoure aussi, vous a peut-être inspiré des questions, des commentaires. N'hésitez pas à le faire, comme toujours, on est hyper preneurs. Mais avant de se quitter... J'avais fait la promesse qu'on parlerait de Hunter Biden, qui, cette semaine, s'est frayé une place parmi les tendances sur X. Qu'est-ce qu'il a fait, Hunter? Moi, j'avoue que j'ai pas eu le temps de voir ce qui se passait sur ce front-là. Informez-moi, chers collègues.
Ben, c'est juste qu'il s'est mis à répondre à des comptes MAGA qui critiquent. Tu sais, faut juste pour la petite histoire, Hunter Biden, bien sûr, c'est le fils de l'ancien président. Il y a des gros problèmes de consommation. Il était associé à des scandales aussi financiers. Pendant l'élection de 2020, son fameux
laptop,
donc son portable, a été piraté. Bon, les contenus ont été téléversés sur le web, puis on voyait des photos, puis des images quand même assez désobligeantes. Là, on le voyait consommer de la drogue, on le voyait avec des travailleuses du sexe, par exemple. Bref, c'était pas trop reluisant, son affaire. Donc, c'est un peu un personnage déchu. Mais là, dans les dernières années, il a commencé à recréer son profil. Il est passé à des balados quand même assez populaires où les gens étaient comme « Hey, il est quand même cool, Hunter
Biden. » Il était sans filtre. Ouais. Il se permettait
de critiquer les démocrates.
Il sacrait. Il avait l'air de... Mais c'est un bon communicateur, en fait.
Puis il fait des blagues en étant franc sur son ancien problème de consommation. Mais là, c'est ça, il a été propulsé sur X cette semaine parce qu'il s'est mis à répondre à des comptes MAGA, mais comme vraiment de façon très frondeuse.
Ouais, puis... Un exemple parmi tant d'autres. Donc, le 1er juin, il y a quelques jours, il a mis une vidéo pour dire que ça faisait 7 ans qu'il était sobre. Quelqu'un répond, c'est pas vrai, c'était ton sac de cocaïne dans la Maison Blanche. C'est parce qu'il y avait cette rumeur là
Sac de cocaïne qui avait été retrouvé dans les derniers jours de la présidence de Joe Biden. Il y avait un sac de cocaïne qui avait été retrouvé par les policiers dans la Maison Blanche. Tout le monde disait, haha, c'était Hunter Biden.
Et là, Hunter, plutôt qu'envoyer promener la personne, il dit, c'était certainement pas mon sac, j'aurais jamais oublié ma drogue. Puis même la personne qui a répondu ça a répondu, haha, à son tweet. T'sais, fait que c'est vraiment. Un grand sens de la répartie. Il a pas peur de se présenter tel qu'il est. T'sais. Fait que il y a plusieurs tweets comme ça qui sont devenus viraux ces derniers jours.
Il y a quelqu'un qui a répondu, une femme lui a répondu en disant « Qu'est-ce qu'il y a sur ton laptop, Hunter? » Puis il est comme « Ben, il est sur le web, tu peux aller voir toi-même. »
C'est ça.
C'est comme « Vas-y, check ben qu'est-ce qu'il y a sur mon laptop. » Donc, en tout cas, il y a un bon sens de la répartie sur X. Donc, on voyait les gens dire « Est-ce qu'on voit l'émergence du nouveau super poster? » Donc, un reply guy
peut-être.
Même Nicolas Beer, chef du produit sur X par rapport à sa publication sur le sac de cocaïne, dit « Je sais que tu seras un poster générationnel.
» Est-ce qu'Elon Musk a commenté?
Elon Musk, écoute, j'ai rien à confirmer à ce sujet.
Il prépare son entrée en bourse, c'est occupé, là.
Ouais, c'est ça.
Oh, non, il est pas trop occupé à voir le nombre de tweets qu'il publie.
Ouais, mais il faut qu'il fasse attention, hein, parce que la SEC surveille aussi ce que les chefs d'entreprise qui ambitionnent d'entrer en bourse disent et font. Là.
Ouais. Il y a déjà eu des problèmes en annonçant faussement que Tesla allait entrer en bourse. Bref, oui, il faut qu'il fasse attention. Fait qu'il va juste continuer à publier des choses sur la guerre culturelle et... des prises chaudes.
Ouais, disons. C'est ça. Guerre culturelle. Quelle guerre culturelle? Ben voilà. On a, je pense, complété. Est-ce que... Hey, regarde ça. Regardez le chronomètre.
Non, on va pas étirer.
Non, on est à 1,14, chers amis, parce qu'il y a le mythique 77 minutes qu'on va peut-être atteindre un jour.
Je suis sûr qu'il y avait un potentiel aujourd'hui.
Nicolas pensait qu'il y avait le potentiel. Jeff en doutait. Moi, je tente les deux, mais finalement, ça sera pas pour aujourd'hui parce qu'il y aura du montage. Il y a toutes sortes de choses qu'on a dit qu'on mettra peut-être pas en ligne. Mais tout ça est dans l'ordre des choses. C'est normal. Et l'essentiel vous sera livré cette semaine encore une fois. Jeff et Nicolas, merci bien.
Un plaisir.
Plaisir partagé, chers amis.
Dans trois secondes.
Jérémy Sauvé, pour ne pas le nommer, toujours là, fidèle au poste. Et aux aguets également. Merci beaucoup encore une fois, cher Jérémy. Martine Roy, également fidèle au poste. Notre cher Martine 360. Et le général, nul autre que Louis-Charles Dionne, qui s'est remis de la défaite du Canadien, de l'élimination du Canadien. Il est déjà passé à autre chose. Il est allé pêcher en fin de semaine. Il nous est revenu tout bronzé, notre beau Louis-Charles. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous aime. Je le dis du fond du cœur. Continuez à nous écrire, à nous envoyer, à nous faire part de vos réflexions. Merci de faire partie de la belle aventure des décrypteurs. À la semaine prochaine. Salut.